Phil PM. Politique.
J'annonce aujourd'hui mon intention de modifier trois irritants principaux liés au registre. Considérons le tout comme une position raisonnable, tous doivent s'y conformer. Le registre est là pour rester et il n'est aucunement question de l'abolir.
C'est pour faciliter la vie. Ça ne change pas l'objectif qui est d'enregistrer les armes d'épaule.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était le premier ministre depuis Davos. Hein, il est au sommet, au grand sommet économique, là. Et juste avant, la ministre Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité. Grosse conférence de presse ce matin avec la ministre, mais aussi les partisans d'un meilleur contrôle des armes et aussi les opposants à un meilleur contrôle. Poli se souvient d'un côté, les chasseurs de l'autre, pour en discuter, notamment de ça et de bien d'autres sujets. Paul Journet, éditorialiste à la presse.
Salut.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour, messieurs.
Alors, registre, comment dire, adouci, assoupli?
Oui. Je dirais que c'est un tour de force de la part de la coalition Avenir Québec. Moi, je me souviens que lorsqu'on avait appris que le registre allait être aboli, tu avais une conférence de presse conjointe.
Le registre canadien.
Oui, c'est ça. Tu avais une conférence de presse conjointe de tous les chefs de police, des politiciens, puis il y avait vraiment un front commun. Là, on a réussi à nouveau à créer ou presque à créer un front commun pour la solution. Puis c'est pas mal plus facile de dénoncer quelque chose que de trouver la solution. C'est plus facile de dénoncer en groupe que de trouver la solution en groupe. Oui. Or, la coalition Avenir Québec et sa vice-première ministre Geneviève Guilbeault ont réussi ce tour de force. Écoute, moi, j'ai appris ça ce matin dans une chronique de Bernard Drainville dont j'ai obtenu copie. Et ça a été confirmé par le gouvernement lui-même. Quand je dis un tour de force, c'est parce qu'il reste ferme sur le principe. Hein, le registre entre en vigueur le 29 janvier. Il va y avoir des pénalités si les gens ne s'y conforment pas. Par contre, il y avait plein d'irritants pas tout à fait justifiés, puis ils ont réussi à rester souples là-dessus, puis à faire des aménagements. Il y en a trois. Premièrement, comme tu le sais, si tu t'absentais pour 15 journées, il fallait que tu préviennes les autorités. Mais c'est un peu absurde. Si tu t'en vas chasser pendant 20 jours, donc il faut que tu te rapportes, là, il faut que tu sortes de ton camp de chasse, comme tu l'expliquais si bien, puis que tu trouves un signal cellulaire. C'est absurde. Ça va être modifié. Combien de journées? On ne le sait pas parce qu'il y a le privilège parlementaire et c'est normal. Deuxième assouplissement, le numéro d'immatriculation pour ton arme. Oui. Encore là, il y avait une certaine absurdité bureaucratique où tu avais deux numéros, le numéro pour l'arme et le numéro pour le registre. On met à fait à ça, il va avoir un seul numéro. Et troisième et dernier aménagement, l'immatriculation, c'est-à-dire qu'il fallait que tu vérifies la longueur du canon. Puis là, on ne savait pas à partir de quand tu commences à mesurer, à quel endroit. Puis si tu as une arme qui a deux canons, comment tu t'y fais?
Exact.
Comment tu t'y prends? Ça aussi, on va répondre aux doléances des chasseurs. Écoute, les chasseurs, on ne les a pas complètement ralliés, mais ils étaient contre le principe aussi, certains d'entre eux.
Ce qui était frappant ce matin, c'est ça. Tu allais le dire.
C'est ça.
C'était, tu avais d'un côté, Poli se souvient avec Heidi Rajan, qui ont beaucoup milité pour le registre. Oui. Puis tu avais de l'autre côté, de part et d'autre de la ministre, tu avais les chasseurs, le représentant, directeur général de la Fédération des chasseurs.
Si je peux avoir de l'air naïf, je trouve que c'est un beau moment pour le Québec.
Non, mais tu as tout à fait raison.
Il faut le dire, on chiale souvent.
Oui.
D'ailleurs, manquez pas ma chronique demain, je vais me reprendre, je vais chialer sur quelque chose d'autre, mais pour l'instant, ça c'était très bien.
Très bien, oui, non, je suis d'accord avec toi.
C'était impressionnant de voir ça autour de la ministre Guilbeault, là. Les chasseurs, Poli se souvient, le directeur de la SQ qui était là aussi. Consensus au Québec, c'est pas toujours facile, donc tour de force, coup de chapeau au gouvernement caquiste là-dessus.
Voilà. Comme je disais un matin à Paul, il y en aura en masse des occasions où on pourra les critiquer, puis les pincer, puis les planter. Là. Ça, il n'en manquera pas dans les quatre prochaines années, je vous l'annonce. Là. Ils vont, à un moment donné, ils vont en faire des erreurs, puis ils vont avoir l'air fous. Puis
peut-être
qu'ils
sont en train d'en faire une en ce moment même, puis on ne sait pas, Bernard.
Exact. Sais-tu quoi? T'as sûrement raison.
Probablement.
T'as sûrement raison. À cette heure, il faudra la découvrir, parce qu'ils n'ont pas nécessairement... Ils vont pas nécessairement nous la révéler, mais les journalistes existent pour ça, heureusement. Bon, parlons un petit peu d'un autre dossier quand même qui concerne Québec, la Société québécoise du cannabis. Là, moi, une des questions que je me pose dans ce dossier-là, là, c'est la SQDC, là, ça va-tu finir par nous coûter des sous, cette patente-là? Là? Parce que si tu ne vends pas assez de produits parce qu'ils ne sont pas disponibles, ces tablettes, puis tu décourages tes clients de t'y rendre, là, moi, je suis certain qu'il y a un paquet de monde qui ne se rendent même plus à SQDC parce qu'ils prennent pour acquis que le stock qu'ils veulent aller acheter n'est pas disponible. À un moment donné, ça se peut-tu qu'on se retrouve avec un beau gros trou financier lié à la création de la Société québécoise?
On va mettre une couple de choses au clair. Premièrement, je sais qu'il y a eu des gros titres en disant ils sont pas capables de faire leurs frais pas rentables. C'est normal. Il y avait d'importants coûts de lancement.
Oui. Ça, c'est d'accord.
Il y a eu des pénuries de stock qui ont nuit aux ventes. Là encore, on s'attendait à ce qu'il y ait des pénuries au début parce que les vendeurs doivent être licenciés. C'est un processus assez lourd. Ça ne va pas tout de suite, dès le jour 1, être parfait.
Tu veux dire les fournisseurs?
Les fournisseurs.
Oui.
C'est ça. Et quand tu dis il y a peut-être des gens qui vont rester au marché noir, il n'y a personne de sérieux qui a jamais prétendu qu'on allait tuer le marché noir et que tous les consommateurs allaient s'approvisionner au marché légal. On veut lentement, mais sûrement, augmenter la proportion de gens qui vont vers le marché légal.
Okay, mais Paul,
cela dit, ta question, c'est est-ce qu'on va se ramasser à perdre un tas de cash? Moi, je la renverserais. Écoute, la différence entre la SQDC et la SAQ, c'est qu'on ne demande pas à la SQDC de faire de l'argent. La SQDC ne reçoit pas de pression du ministère des Finances pour devenir une espèce de vache à lait,
Paul,
comme c'est le cas avec la SAQ et l'Auto-Québec.
Tu t'en tireras pas à si bon compte, là. Qu'ils aient pas le mandat de faire de l'argent, c'est une chose. Ils ont pas le mandat d'en perdre plus que ce qu'ils devaient perdre.
Ils
ont pas le mandat de creuser un trou, là.
Non. Ben écoute, s'ils creusent un trou, c'est une pelle en plastique pas trop trop grosse. Là, ils disent qu'ils vont rentrer dans leurs frais en 2020.
Ben, j'ai hâte de voir ça.
Mais si c'est le cas, c'est correct. Moi, je suis d'accord avec Paul que ça prend un certain temps avant de devenir rentable. Mais on peut pas demander à une société d'État de ne pas faire au minimum ses frais dans un cours, dans un laps de temps donné.
Non, mais je veux bien, Carl. Là, écoutez bien, les amis. Là, moi, là, le modèle d'État, là, je me suis rendu à ça. J'ai accepté. Que, bon, pour des raisons notamment de sécurité, puis de ci, puis de ça, bon, ils voulaient peut-être mieux passer par ce modèle-là. Mais jusqu'à date, là, on peut pas dire que c'est une grande réussite, là. On peut pas dire que c'est une grande réussite, là. Ils ont de la misère à se faire approvisionner. Ils manquent de produits. Le nombre de succursales qu'ils devaient avoir a été réduit. Right?
Oui. Mais il y a une grosse différence à faire entre des problèmes de lancement puis des problèmes dans la structure de coûts puis dans la marge de bénéfice à long terme. Là. Si c'est juste des problèmes de lancement qui sont dus à cause de la rigidité des normes du fédéral puis d'une sous-évaluation des stocks au début puis on règle ça après un an.
Mais c'est qui les pas bons de l'histoire? Là? C'est-tu les fournisseurs qui ont sous-estimé la demande? Les compagnies qui sont supposées nous fournir le pot, là? C'est-tu eux autres les pas bons?
Écoute,
Vas-y, Carl.
J'ai une hypothèse que les pas bons là-dedans, c'est le fédéral. Parce que ils s'en sont lavés les mains alors que les provinces demandaient plus de temps pour s'assurer qu'ils étaient prêts à faire la transition. Et le problème qu'on voit au Québec, que ce soit au niveau de l'approvisionnement ou des frais, on le voit partout ailleurs au Canada. Mais le fédéral, lui, s'enlève les mains. J'ai rien à voir là-dedans. C'est pas nous qui gérons le programme. Alors que les provinces l'avaient vu venir, ces problèmes-là, mais c'est pas en mesure de le régler.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il s'en sort plutôt à bon compte actuellement, Justin, là, parce que quand actuellement, on parle de quoi, on parle du fait que la SQDC, Société d'État du Québec, pas du fédéral, mais du Québec.
Du Québec.
Décidé de diminuer de 50 à 40 le nombre de magasins d'ici 2020, en plus de tous les manchettes négatives qu'ils ont eues ces dernières semaines.
Si je peux me mettre avec Carl pour qu'on soit deux contre toi, Bernard, dans ta chasse au pas bon, une information que tu devrais prendre en considération, le Québec vend pour presque le tiers. Le Québec compte pour presque le tiers des ventes de cannabis au pays. Donc, s'il y a des
pas bons...
Tu
veux dire qu'on a sous-estimé la demande au Québec, peut-être?
Non, au contraire. Ça veut dire que s'il y a une pénurie de stock, puis
il y a
un faible pourcentage de consommateurs qui s'approvisionnent au marché légal. Ça existe plus dans les autres provinces qu'au Québec.
Ben là, tu dis le tiers du pot légal. Le tiers
vendu
du pot
Canada,
légal vendu,
il est vendu au Québec.
Ouais. Oui, mais
pour le quart de la population du pays.
Donc, la question se pose, est-ce que c'est parce qu'on en consomme plus qu'ailleurs? On est le quart de la population puis on a acheté le tiers du pot légal.
Ben on peut se référer aux précédentes études qui étaient toujours désestimées, mais quand même avec une certaine fiabilité qui montrait que le Québec, là, on n'était pas les drogués de la fédération. Là. Donc la réponse me semble plus se trouver dans la vente au Québec légale versus la vente légale dans les autres provinces. Donc c'est pas que les Québécois fument plus, c'est qu'il semble y avoir sous toute réserve au Québec un plus grand pourcentage des consommateurs qui s'approvisionnent au marché légal
plutôt qu'au
marché noir dans les autres provinces.
Ok. Ben, c'est une thèse à vérifier.
Les pas bons sont ailleurs, Bernard.
Tu veux dire dans les autres provinces?
Hypothétiquement.
Eh, boboy! Ben, c'est à voir, mon cher Paul. Hein? On verra si ton hypothèse se confirme. On va passer maintenant à toi, mon cher Carl, et la Chine. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine?
Écoute, l'ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum, a fait plusieurs déclarations très surprenantes hier dans le dossier de l'arrestation de Meg Wanzhou, là, la directrice financière de Huawei, suite à la demande d'extradition des Américains. Il a tenu une conférence de presse devant les médias chinois de Toronto. Et comme par hasard, les médias anglo et franco n'ont pas été avisés. Déjà là, il y a un problème. Mais c'est aussi les choses qu'il a dites qui étaient un peu pas mal différentes de ce qu'il a dit. On peut écouter ce que ça donne.
One political involvement by comments from Donald Trump in her case. Two, there's an extraterritorial aspect to her case. And three, there's the issue of Iran sanctions, which are involved in her case. And Canada does not sign on to these Iran sanctions. So I think she has some strong arguments.
OK, là, tu vas me traduire ça parce que c'était assez technique, Carl.
Mais écoute, ce qu'il dit essentiellement, c'est que la Meng Wanzhou a des très bons arguments pour se battre contre la demande d'extradition. Premièrement, implication politique de Donald Trump. Deuxièmement, il y a un aspect extraterritorial, évidemment. Troisièmement, les sanctions américaines contre l'Iran. Le Canada n'applique pas ces sanctions. Alors donc, on a l'ambassadeur du Canada en Chine qui prend la défense d'une citoyenne chinoise au Canada.
Et qui est en train de dire quasiment que le gouvernement du Canada ou l'État canadien n'avait pas d'affaire à l'arrêter.
Ben, il n'est pas allé aussi loin que ça, mais il envoie des signaux très forts. Mmh. Et McCallum, faut se rappeler, c'est un ancien ministre libéral nommé en Chine par Trudeau. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est une commande politique de la part du gouvernement libéral ou c'est l'ambassadeur qui est en train d'improviser? On a posé la question à Justin Trudeau. Est-ce qu'il est d'accord avec McCallum? Écoute sa réponse.
Nous avons reconnu depuis le début à quel point c'est important de défendre la règle de droit, de défendre notre système de justice et évidemment, ça comprend le droit de tout accusé, de se défendre pleinement des accusations portées contre elle. Et c'est exactement ce que nous attendions dans ce cas.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là?
Ben, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il a pas voulu dénoncer son ambassadeur. Il a pas voulu le contredire. Donc, est-ce que
Carl, tu as assez d'expérience de politique fédérale, là. Je pense que ton hypothèse, là, l'hypothèse que tu privilégies, là, je suis pas mal sûr que celle que tu privilégies, c'est la commande politique. Là. C'est que McCallum est en train d'ouvrir le chemin pour que le gouvernement trouve une passe-passe pour la laisser partir. Là.
Est-ce que le gouvernement libéral sent la soupe chaude auprès de la communauté chinoise au Canada et voulait calmer le jeu? C'est possible. On peut aussi envoyer à Pékin un signal fort en disant, écoutez, là, nous, on a fait ce qu'il y avait à faire, mais inquiétez-vous pas, ça va passer. Parce qu'écoute, faut comprendre que dans la procédure d'extradition, c'est un juge qui décide, lorsque la preuve est soumise, s'il est satisfait de la preuve, d'incarcérer la personne pour extradition. Mais ensuite, c'est le ministre de la Justice qui est responsable de prendre la décision finale d'extrader ou non Meng Wanzhou.
Qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Tu es en train de dire qu'un juge pourrait décider de l'extrader, mais le ministre pourrait dire, ben, finalement, après mûre considération, on va laisser aller?
La responsabilité en cas d'extradition, c'est au ministère de la Justice, donc au ministre de la Justice. Le juge accepte la preuve, ordonne l'incarcération et la responsabilité ensuite incombe au gouvernement, donc au ministre. Et c'est là que la pression politique peut venir et les signaux de McCallum hier disent, écoutez, là, notre ami David Lametti, là, ce dossier-là, voici les arguments de la défense.
Le nouveau ministre de la Justice, tu dis, Lametti, ça risque d'être peut-être sa première grosse décision comme nouveau ministre de la Justice. Mais tu as amené un élément intéressant. Quand tu dis la communauté chinoise de Colombie-Britannique, de Vancouver, Grand Vancouver, faut se rappeler, il y a deux provinces où les libéraux ont des grands espoirs électoraux pour récupérer les comtés qui vont perdre ailleurs lors des élections. Ils ont des grands espoirs au Québec. Ils ont des grands espoirs en Colombie-Britannique. Alors, le vote de la communauté chinoise est très important dans ce contexte-là. Carl Bélanger, merci.
À bientôt.
Bonne journée.
Merci, monsieur.